Niles.
Si tu le dis avec conviction, personne s'en rend compte.
Annika Niles.
Voilà.
Oui. Faudrait au moins que j'aille le prénom.
C'est ouais, là.
Ouais, c'est.
Je trouve ça, tu sais, dit que ce soit une femme.
Oui.
Je trouve ça, ça rock une fille qui drum, qui joue de la bass, qui. Une femme en musique, tu couches aux autres.
Moi, je l'ai dit tantôt, au niveau du sex appeal, tu joues d'un instrument de musique, tu montes de 8 échelons quasiment.
Je pourrais virer de bord.
Instantané.
J'ai vraiment un faible pour les femmes en musique.
Bon, ben, tabarnouche, on. D'après moi, toi puis moi, on trippe ces mêmes, là, à peu près, là. Donc, plus sérieusement, Rush va débuter une tournée le 7 juin à Los Angeles, la terminer le 17 septembre à Cleveland. Et le plus proche qui passe pour le moment, c'est du côté de Toronto les 7 et 9 août prochains. Dans la circulation, Audrey.
Il y a des problèmes en ce moment si vous êtes sur la capitale, direction ouest entre Henri IV et Robert Bourassa. Direction ouest, c'est concentré à la hauteur de Laurentienne. Des troubles aussi à l'entrée du pont Pierre-Laporte, surtout si vous êtes sur Henri IV, direction sud. Je vous dirais que ça commence à ralentir à peu près à la hauteur de chemin Sainte-Foy jusqu'à l'entrée des ponts. Même chose pour Duplessis. Plus haut, dans le coin de Shannon, devant la base militaire, route de la Bravoure, là, dans les deux directions, c'est encore compliqué. Et sinon, ben, c'est sur la rive sud. Guillaume Couture à l'entrée du pont de Québec. Sinon, c'est vraiment la 20 direction ouest entre la route du président Kennedy et Taniata. Évidemment, il y a quoi que ce soit d'autre. 88-971-1021 par texto.
On est une société où fondamentalement on s'ostine sur tout ou à peu près tout. Et quand on a parlé de cette histoire-là la semaine passée, je peux vous dire que la réaction, premièrement, vous avez été très nombreux à réagir à cette histoire-là. Et deuxièmement, on peut dire que tout le monde réagissait de la même façon. Comment ça se fait qu'une affaire de même peut arriver? Puis en même temps, vous avez toute une histoire qui ressemble
c'est
un peu à l'histoire qui a été racontée d'abord par Mylène Moisan dans Le Soleil. Vous vous en souvenez peut-être, on l'a lu au complet la semaine passée dans Le Retour. Chronique d'une mort annoncée trop tard. L'histoire de Nicolas Bergeron, de sa conjointe Noémie. Nicolas, 45 ans. On lui a appris qu'il avait un cancer incurable après avoir visité plusieurs médecins, fait plusieurs coups de fil où on y disait « C'est du reflux gastrique, prends des médicaments puis ça va passer. » c'est une histoire qui vous a toutes touché parce que là-dedans, il y a de la négligence. Là-dedans, il y a des gens qui ont mal fait leur job. Là-dedans, il y a des gens qui font les bonnes choses et qui se retrouvent trop tard avec un grand sentiment d'injustice et de colère, j'imagine.
Un gros problème en première ligne aussi quand on parle du système de santé. Une visite, un problème, ça crée probablement beaucoup de ces situations-là parce que ça retarde justement le fait de pouvoir trouver les 10 problèmes, là.
Nicolas et Noémie sont en studio avec nous autres aujourd'hui. Salut les amis, comment ça va?
Bonjour. Hey, c'est une grosse question, je ne sais plus quoi répondre à ça.
C'est tough, hein?
Oui, bien franchement, là, on va dire ça va.
Je comprends que ça a été une grosse journée pour vous autres aujourd'hui.
Oui, exactement. Pour moi, ça a été, ça a passé en fait la semaine à l'hôpital pour des petites complications. Mais,
tu viens juste de sortir?
Je viens de sortir là, ouais.
Hey, merci d'être avec nous autres.
Hey, on a couru pour venir assister au show, puis... on trouvait ça important là, de, que vous nous donniez une tribune pour exprimer un peu vers quoi que qu'est-ce qui s'est passé au fait là, avec, avec notre, notre problème. Là.
Peux-tu rappeler, Nicolas, c'est quoi le cancer que tu as?
Ouais, ben...
c'est un gros nom, là. Ça s'appelle un cholangiocarcinome. C'est un cancer des voies biliaires. Qui est assez rare, mais de plus en plus courant. Mais c'est surtout un cancer qui est très agressif aussi. Et dont, en fait, les chances de survie reposent sur la possibilité de resséquer le cancer. Donc, à partir du moment qu'on le diagnostique puis que le cancer a commencé à se répandre, en ce moment, ce qu'on fait, c'est qu'on n'opère pas et on transfère en soins palliatifs de chimiothérapie puis d'immunothérapie en espérant acheter du temps. Donc, c'est ça.
Le fait d'avoir eu des douleurs au ventre pendant des mois et des mois, d'avoir essayé d'avoir un rendez-vous, finalement d'avoir un rendez-vous, puis un deuxième rendez-vous, puis un troisième rendez-vous, si je ne m'abuse, et de savoir que tous ces gens-là sont passés à côté du cancer sans le trouver, puis la journée où quelqu'un le trouve, la personne a dit « il est trop tard », combien de temps on reste en colère?
Écoute... je sais même pas si c'était de la colère ou en fait c'était vraiment de l'incompréhension totale. C'est du d'un autre état. Écoute, je suis arrivé, le médecin qui me dit ça, en fait, me dit ça froidement comme ça. J'étais tout seul dans son bureau à l'Enfant Jésus. Puis il dit, écoute, t'as probablement le cancer. OK, probablement. Il dit, là, j'en reviens pas. Je dis, bien, ça se traite-tu? Il dit, c'est un cancer qui est très agressif. Puis là, il enchaîne. Il dit, t'as-tu du monde chez toi, tu sais, qui peut te recevoir présentement? Je dis, oh, oui, j'ai ma conjointe, tu sais. Ça s'est arrêté là. Fait que moi, j'ai sorti, m'a donné mon billet. J'y ai demandé, j'ai dit, est-ce que je peux avoir au moins 7 jours, tu sais, d'arrêt de travail, tu sais, pour assimiler tout ça. Il dit, oui, il n'y a pas de problème, tu sais, je vais te donner 7 jours, tu penseras à ça, puis tu te feras une tête là-dessus. Que je suis arrivé à la maison à minuit, le soir, je rentre à la maison en pleurant, parce que là, mon monde s'était complètement écroulé, il n'y a plus rien qui existe à ce moment-là. Pardon, fait que là, je dis à Noémie, je lui dis, garde, j'ai le cancer.
Comment on réagit quand on se fait annoncer une nouvelle comme celle-là?
Les lumières se ferment d'un coup, là, ben franchement. Là,
ça a-tu été une surprise totale ou tu avais commencé à redouter quelque chose puis en même temps, tu veux pas inquiéter la personne? Puis...
Ben en fait, je me doutais. Dans le fond, Nicolas il a commencé là, à avoir des douleurs, c'était le 8 avril 2024. Puis il s'en souvient clairement parce que c'était la journée de l'éclipse.
Oui, okay? Oui.
C'est pour ça qu'on s'en souvient. Mais moi, à ce moment-là, il ne me l'avait pas dit cette journée-là parce qu'il ne voulait pas m'inquiéter avec ça. Puis il savait que ses médicaments...
Les gars, on ne fait jamais ça, nous ça. Autres. Hein?
Fait que je ne l'ai pas dit. Fait que là, dans le fond, je repars du début parce que, bon, je sais où je m'en vais avec ça, là. Mais c'est ça. Donc là, il ne me l'a pas dit. Puis lui, il savait qu'il y avait des médicaments à se faire, represcrire. Entre autres, il y a du psoriasis. Il y a toutes sortes de patentes. Fait que... Bon, puis il travaille à l'extérieur, puis il peut se ramasser à coups de joie, il peut se ramasser partout. Donc là, à un moment donné, la douleur revient. Puis là, finalement, il se dit, je vais consulter, puis je vais aller voir pour mes médicaments renouvelants en même temps. Puis c'est quand qu'il a fini par avoir le rendez-vous, le 5 mai. C'était un dimanche matin à 8 heures.
Okay? Un mois plus tard.
Oui, c'est ça. Ça a pris quelques semaines parce que, dans le fond, quand on est patient orphelin, on a deux voies. Soit qu'on appelle au guichet d'accès ou qu'on le fait en ligne, on remplit un formulaire. Quand tu remplis le formulaire, faut que tu saches répondre aux questions comme du monde parce que souvent, ils vont te dire, va voir ton pharmacien, appelle le 8-1, fais telle affaire.
Ouais.
Mais quand on finit par se rendre au bout, à ce moment-là, on laisse nos coordonnées, puis on nous dit qu'il y a une infirmière qui va nous rappeler dans les jours à suivre, mais qu'elle essaie 3 fois, puis que si on ne répond pas après 3 fois, mais la requête est rejetée.
Exact.
Mais Nicolas, lui, il travaille, tu sais, des fois dans des usines où que des champs magnétiques ne peuvent pas avoir son téléphone, toutes sortes de choses, tu sais. Donc,
c'est un appel qui est facile à manquer.
Exactement. Exact. Donc, il s'en va à ce rendez-vous-là. Moi, je pensais que c'était pour ses renouvellements. Puis quand il arrive, il dit, Noémie, il faut que je te parle. Nous, on était en processus, on fait du plein air. On venait de vendre notre roulotte. Puis le projet, on s'est acheté une tente de toit pour partir. On voulait, tu sais, dans les prochaines années, faire Terre-Neuve, le Labrador, tout ça. Fait que moi, j'étais dans la démarche de ça, puis il dit, là, Noémie, il faut que je te parle. Il dit, le médecin, j'ai mal au ventre là, depuis un bout de temps. Puis là, ce matin, le médecin ne m'a pas écouté. Mais il dit, je pense qu'on devrait attendre avant d'acheter la tente de toi parce que j'ai comme le feeling qu'on va avoir besoin d'argent. Il sentait qu'il y avait de quoi. Là, moi, je capote. Puis c'est là que je l'ai envoyé à l'urgence le lendemain, puis qu'il s'est fait revirer de bord.
Donc, es-tu arrivé avant d'aller plus loin? Parce que ça, c'est une étape où tout le monde réagit en faisant « Mais voyons donc, ça n'a pas de maudit bon sens. » Le premier médecin pour les renouvellements d'ordonnance. Ça a-tu vraiment été dit, ça? Excuse ton mal de ventre, là. On ne s'occupe pas de ça aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, c'est juste le renouvellement
d'ordonnance. En fait, ça a été plus que ça. C'est que même... quand moi, je suis arrivé, j'avais quand même... Ça faisait plusieurs années que j'avais pas de médecin de famille.
Mm-hmm.
Alors, les prescriptions s'étaient accumulées.
Oui.
Alors, j'en avais peut-être, je sais pas, de mémoire, 4, 5. Mais pour lui, c'était déjà trop.
C'était déjà trop d'ouvrages.
Il est arrivé avec la liste. Il a fait ses choses. Il avait écrit, tiens, moi, il me faut ça. Puis,
puis là, d'arriver avec un mot qui doit... Me toucher, me sculpter, tout ça, là, c'était...
Non. C'était trop d'ouvrage.
C'était un problème, il faut reprendre rendez-vous, monsieur.
On était un dimanche, ça paraissait que ça lui tentait pas, malheureusement, d'être là, puis...
Faut pas penser à ça, là, mais ça, c'est la personne numéro un qui aurait pu le trouver, le cancer.
Ben oui.
Ben moi, je pense juste à ça.
Ouais.
Tu sais, c'est pour ça que tu dis, est-ce que tu t'en doutais? Bien, à partir du moment qu'il m'a dit, là, on met nos projets sur pause, là, j'étais comme, OK, tu sais, moi, mon chum, il a pas mal d'envie, tu sais, il travaille dans la construction.
Il se plaint pas.
Puis là, il me dit, OK, il a mal. Moi, ding, 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 c'est pas normal. Mais je pensais à quelque chose de grave, mais genre, je sais pas, là, une cirrhose, une pancréate. Tu sais, je pensais à quelque chose, tu sais, parce qu'il a mal au ventre. Moi, je cherche sur Google, je trouve ça, mais tu sais, cholangiocarcinome, tu sais, genre.
C'est pas le premier qui sort sur Google,
non, là. Surtout de dire un cancer, OK, oui, OK, un cancer, parfait, là, on va se battre, tout ça, mais non, tu sais, il n'y a rien à faire.
Est-ce que médicalement, puis je sais même pas si la question se pose, mais est-ce que vous avez posé la question, genre, si on l'avait trouvé un an auparavant ou 6 mois auparavant, comment ça aurait pu faire évoluer le diagnostic, la possibilité de traiter le cancer, la possibilité d'allonger l'espérance de vie? Ça a-tu été discuté,
ça? La question est très bonne, franchement, mais on l'aura jamais, la réponse. OK, tu sais... C'est sûr que pour l'instant, il n'y a pas de traitement. Il n'y a aucun médecin qui va dire qu'on peut te traiter au Québec. C'est impossible. Sauf que moi, je me suis rendu à un point tel que j'étais en train de m'intoxiquer avec mes propres déchets, tu sais, de mon corps.
Avant que quelqu'un trouve quelque chose.
Fait que tu sais, là, je suis pas juste arrivé, OK, tu as le cancer, c'est que tu as un autre problème à régler
qui met ta vie en danger
avant le cancer, qu'on doit régler pour après ça, OK, s'occuper du cancer. T'sais. Fait que fallait revenir en arrière, tout le temps perdu, tout réparer ça. Une fois réparé, là, on s'attaque au cancer en soi.
La colère, pas le choix de la laisser de côté dans une certaine mesure, parce que c'est une grosse épreuve à passer à deux.
J'ai de la misère à la laisser de côté, moi, personnellement. Là, ouais, là lui...
plus résilient.
Oui, mais tu sais aussi, c'est que, tu sais, il y en a assez à... C'est tous les jours, là, je veux dire, il y a 3 drains biliaires. Puis comme il dit, c'est que, est-ce que ça aurait pu être évité? On n'aura jamais la vraie réponse. Mm-hmm. Mais chose certaine, c'est qu'un cancer, ça évolue. Puis à partir du moment qu'il a adressé le problème le 5 mai 2024, puis qu'on a dit c'est un problème à la fois, bien, ça a pris jusqu'au 18 décembre avant qu'il puisse recevoir de la chimiothérapie.
Ça
donc, c'est sûr que ça a évolué. On le voit que ça évolue en seulement quelques semaines. Donc, il y aurait sans doute d'autres options de traitement. Peut-être que l'opération aurait été possible, mais il y aurait eu ces mois de douleur-là, puis d'hospitalisation, puis les 3 drains. Puis, tu sais, il ne se serait pas rendu aussi loin que ça, là, assurément. Là.
Savez-vous s'il y a des traitements ailleurs? Parce que, Nicolas, tu dis, tu sais, ici, il n'y en a pas. Là. Est-ce que vous avez fait un peu les recherches à savoir, y a-t-il moyen ailleurs dans le monde?
Oui, bien, en fait, ici, il n'y en a pas. Là, c'est sûr qu'il y a plusieurs études cliniques. Le cholangiocarcinome, là, c'est un cancer rare, mais quand même, il y a des fondations qui sont faites sur ça. Il y a le Cholangiocarcinoma Foundation aux États-Unis, dont l'ambassadrice, c'est une patiente qui a reçu un essai clinique à l'époque, il a 16 ans, c'est une survivante, puis avait un cancer métastatique. Ça s'appelle un TIL therapy, c'est une immunothérapie ciblée, personnalisée.
Okay.
En gros, ce qu'ils font, là, c'est qu'ils vont chercher tes cellules de cancer, puis à partir de ça, ils vont faire comme un petit peu les anticorps qui vont aller le manger.
Mm-hmm.
Mais c'est sûr que c'est une procédure qui est coûteuse puis qui prend du temps. Donc, aux États-Unis, en ce moment, il y a encore des études cliniques là-dessus. Puis je me suis informée, là, tu sais, j'ai appelé, j'ai écrit des courriels, c'est environ 400 000 $ US. Puis ça ne veut pas dire que ça va être compatible et fonctionner. Et il y a au CHUM le docteur Turcotte qui prépare ce TIL therapy-là, qui était censé au départ voir le jour en 2024, puis là, qui est retardé toujours avec des questions administratives. Donc là, on pensait l'avoir en 2025
c'est
peut-être.
Franchement.
Mais là, il pointe début 2026, mais on ne sait jamais s'il sera assez fort puis si ça va être compatible pour lui aussi.
Le temps qui reste, le savez-vous?
C'est une grosse question. Non. Les médecins... Nicolas, non, ne veut pas le demander clairement.
Ça, je l'ai vu dans le texte que Nicolas, tu ne voulais pas le
c'est
savoir.
Ça. Toi, moi, tu j'ai adressé... Ouais. En même temps, quand j'ai posé la question au médecin, je l'ai vu aussi écrit dans des formulaires qu'on devait donner aux assurances.
Okay.
Il demande le pronostic des assurances. Fait qu'il l'écrit, puis j'ai posé la question au médecin. Puis il m'a dit, écoute, Noémie, j'ai pas de boule de cristal. Il dit, j'ai pas la boule de cristal. Donc, il m'a donné un horizon, mais il m'a répété comme il répète tout le temps, je ne vous ai jamais promis que j'allais te guérir. Nous, on agite du temps, tu sais. On espère que les traitements fassent fondre, tu sais, puis...
J'entre un peu dans votre intimité, mais est-ce que c'est un enjeu un peu entre vous? Que toi, t'as une idée, puis que Nicolas, tu veux pas savoir?
Un peu, peut-être.
Un peu, mais pas... moi, je vis très bien avec ça. Tu sais, dans le fond, on a... ben, en fait, on a commencé vraiment, moi puis Noémie, une thérapie vraiment juste ensemble. On se dit les vraies choses, puis tu sais, les vraies choses, c'est des choses qui sont très, très, très profondes. À, qu'est-ce que tu vas faire quand je ne serai plus là? La maison, ça va fonctionner comment?
Mm-hmm. Vous avez abordé ces choses-là ensemble.
Récemment, on prépare ses funérailles, à savoir quelles sont ses volontés. On n'a comme pas le choix là, d'aller là, là. Mais on espère que tout le temps, même si on le sait, là, que ça ne se guérit pas, mais on espère tout le temps dire, mm-hmm. Là, il va remonter, ça va fondre un peu, puis là, oups, il va avoir de quoi. Puis je pourrais en parler longtemps. Là, on s'est dirigé à Montréal, aller-retour au CHUM, parce qu'on nous avait parlé d'une étude clinique qui était prometteuse pour lui. Puis finalement, on a appris une semaine plus tard qu'il n'était pas admissible parce qu'il prend des antibiotiques, en tout cas. Parce que justement, étant donné que le cancer a fait en sorte que la bile s'est accumulée longtemps dans les voies biliaires, mais c'est un nid à bactéries. Donc, lui, il est toujours comme... Il faut qu'il prenne des antibiotiques en prévention parce que quand il est rentré à l'urgence, justement, après, il y a eu plein de complications, il y a eu des grosses interventions, donc il n'était pas admissible pour ça.
Nicolas, Noémie, à partir du moment où l'histoire devient publique, nous autres, on en a beaucoup jasé. On en a jasé le matin dans le Petit Top avec la gang de Marceau. On en a jasé l'après-midi avec les filles dans le retour. Puis les deux fois, il y a eu énormément de réactions. Ouais. Puis souvent, c'est des histoires similaires. Des histoires qui ne se terminent pas nécessairement de la mauvaise façon, mais toujours des histoires de « ça a pris quatre rendez-vous chez le médecin pour que finalement, il regarde. Puis finalement, moi, j'ai perdu mon père, j'ai perdu mon grand-père, j'ai perdu une sœur, puis ainsi de suite. » Depuis que l'histoire est publique, de votre côté, en avez-vous eu des récits comme ça ou des gens qui ont connecté avec vous autres d'une façon ou d'une autre pour raconter des histoires qui ressemblaient à la vôtre?
Oui. Puis je dirais que dans le parcours qu'on a à l'hôpital depuis un an, là,
vous en voyez beaucoup.
On en a entendu.
Êtes-vous en contact, avec le ça a l'air bizarre comme question, là, mais avec les députés, le gouvernement, j'imagine qu'on en parle publiquement pour une raison.
C'est ce qu'on aimerait, en fait, pourquoi on en parle publiquement? Mais c'est à partir qu'on a une amie qui, bon, en tout cas, bref, on n'a pas discuté, on devait en parler, mais qui a parti un socio-financement pour nous aider, un GoFundMe, parce que là, ça fait un an, là, moi, je suis en arrêt de travail aussi depuis un an, parce que c'est un choc terrible.
Ben toi, t'arrêtes, là.
Moi, j'ai jamais pris d'antidépresseur de ma vie, puis là, il me faut ça pour tenir.
Je comprends.
T'apprends que ton chum a un cancer, c'est une chose, mais que là, puis à chaque fois qu'il est hospitalisé, puis il y a eu des complications, on pensait jamais qu'il allait s'en sortir. Tu sais, il y a toujours de quoi. Donc, à part ça, pour nous aider, puis là, on a vu un gros vent de solidarité, puis nous, on s'est dit, ça n'a pas de bon sens, tu sais. C'est pas juste nous que ça touche, puis ça peut faire œuvre utile. En ce moment, là, ils parlent de ça là, à Québec, là, avec la rentrée parlementaire. Il y a la loi 106. Je ne suis pas une experte en politique. Là. Mais je le sais que de dire que là, on va fermer le gap, le guichet d'accès aux patients orphelins, puis qu'on va amener les patients dans des GMF. C'est parce que lui puis moi, on est deux patients orphelins. Mm-hmm. On est associés à un GMF, puis on n'a jamais pu avoir de rendez-vous là. Jamais, jamais, jamais. Donc, comment ça va faire de suivi? D'associer les médecins à la productivité, de donner un code de couleur aux patients. Nicolas, il était vert, mais il était jaune finalement parce qu'il a fait de la jaunisse. Là.
il était jaune, mais vert.
Mais vert, tu sais, ils l'ont pas pris au sérieux.
Ouais. Puis au niveau de la productivité, ça fait en sorte qu'un médecin va avoir la pression d'aller encore plus vite que ce qu'ils font présentement. Puis les résultats, ça va être peut-être de dire, là, tes deux autres ordonnances, on les renouvellera une autre fois. Fait que parle-moi même pas de ton mal de ventre. Tu sais, on n'est pas dans bonne direction.
Puis tu sais, en même temps, les médecins, là, je les vois. Puis tu sais, c'est sûr qu'il y a toujours des cas, là, que tu sais, ça va être un qui n'est pas à bonne place, mais généralement, là, c'est des humains comme nous autres. Puis, tu sais, quand ils sont écœurés aussi, là, souvent, là, tu sais, de se faire donner des contraintes comme ça, puis à un moment donné, j'imagine que tu viens saturer, mais c'est inadmissible, à mon avis. Mm-hmm. Tu sais, que dans une société comme la nôtre, là, nous, on paie nos impôts comme tout le monde, on n'en a pas de médecin de famille. Nicolas, il y a une douleur qui l'inquiète, il s'en va là, puis elle dit, regarde, je t'arrête, c'est assez pour aujourd'hui, je t'ai signé des papiers, là, regarde, prends rendez-vous. Puis le médecin d'après, en fait, s'il avait passé un scan le 5 mai, on l'aurait vu, le cancer. On l'aurait vu. Puis dans notre combat aussi, moi, j'ai pas l'énergie pour ça là, en ce moment, mais il y a des échographies hépatiques, des bilans hépatiques, on nous a dit qu'il était beau. Puis trois semaines après, il rentrait dans un état critique à l'hôpital.
C'est choquant de voir à quel point le système de santé vous a laissé tomber. Oui. Puis ce qui est choquant aussi là-dedans, puis ça, c'est dans beaucoup d'expériences, c'est qu'un coup passé le jello, quand tu es rendu sur l'étage à l'hôpital, là, ça opère, puis là, ça roule, puis là, ça spin. Mais passer à travers le jello de l'indifférence, ouais, du laxisme un peu, d'un système qui fonctionne pas tout le temps, pas vraiment, à partir du moment où tu pars, pas de médecin de famille, vous l'avez fait, le parcours. Tu sais, il y a des gens qui le font même pas, le parcours. Il y a des gens que ils se rendent même pas. Ah, ils ont eu le premier rendez-vous, finalement, ça a pas marché, puis qui arrêtent là. Vous avez fait ce qu'on dit à tout le monde de faire, puis vous avez eu ce résultat-là. J'ai pas d'autres mots. Ça doit tellement être crissant dire, bien, le système nous a laissé tomber, le système qu'on vante comme étant le meilleur au monde, puis ainsi de suite. Et puis dans ma tête, c'est apolitique. Je veux dire, c'est un constat d'échec de société de dire... on a un couple dans la quarantaine qui aime ça faire du plein air, qui a une joie de vivre, que ça roule leurs affaires. Puis à TV, c'est ça qu'on nous dit de faire, hein, quand vous avez quelque chose. Vous avez tout fait ça.
Engorge pas les urgences tout de suite. Même à ça, il est allé à l'urgence. Puis au triage, ils ont dit, ben non, attends pas ici pour rien.
Mal au ventre.
Ça va prendre trop longtemps. Ouais. Hein. Regarde, je vais t'avoir rendez-vous dans deux jours. T'sais? Fait qu'à un moment donné... c'est ça.
Comment on voit la suite des choses? Je veux dire, les prochaines semaines, les prochains mois?
Bien, je te dirais que... Je voulais-tu répondre, Colin?
Bien, en fait, oui, un peu. Là, c'est pas évident. Tu sais, moi, je suis une personne hyper positive dans la vie. Tu sais, puis je vois, j'ai des projets. Tu sais, moi et Noémie, on se voit, tu sais, tout le temps avec des projets... Toujours. Tu sais, il faut que ça roule sans bon sens. On s'est mariés cet été.
Félicitations.
Bravo, ça fait 21 ans qu'on est ensemble.
Hey! Wow!
Oui, c'est décidé.
Wow!
Enfin!
C'est ça, maintenant, des semaines.
Tu sais, c'est ça. Puis après Terre-Neuve, ben là, c'est une autre chose. Tu sais, puis en fait, on avait... Puis là, il y a quelqu'un quelque part qui a dit, « Non, toi, ta vie, c'est terminé. Tu sais, t'as pu... t'as plus le droit d'aller travailler, tu sais. Tu peux plus faire ce que tu veux. Va falloir que tu te rendes à l'hôpital X nombre de fois par semaine. T'es obligé, t'as pas le choix.
Là, vous êtes des gens de la Côte-Nord, vous autres?
Non, pas du tout. On est des gens qui aiment voyager en région. Mais ma mère habite maintenant, là, elle a marié un gars de Forestville.
Okay.
On est du monde de Québec. On habite sur la Côte-de-Beaupré. Mais tu sais, Nicolas, avec son travail, lui, il a été amené à travailler une fois par mois aux Îles-de-la-Madeleine. Ensuite de ça, Baie-d'Outson, tout ça, Blanc-Sablon, etc. Là. Donc,
mais je veux que tu poursuives, Nicolas. Tu disais, c'est ça, il y a un moment où là, on peut plus, tu peux plus travailler. La vie a décidé que c'est toi qui partais éventuellement. Tu sais, comment t'abordes ça? T'sais, tu veux pas savoir, il te reste combien de temps? Tu le dis, t'es un gars positif, mais comment tu passes à travers ça?
En premier, là, moi, là, le premier réflexe que j'ai fait, c'est comme, je m'excuse, mais Chris, on m'arrache ma vie. Tu sais, je suis plus maître de ma vie. C'est plus moi qui décide ça, c'est... Ça va être les médecins qui vont dire « Aujourd'hui, tu peux plus aller marcher. Il va falloir que tu ailles en thérapie, t'asseoir dans un fauteuil pendant une journée complète puis que tu ramènes chez toi pendant 46 heures des médicaments que tu vas devoir t'injecter, t'auto-injecter à la maison, que tu peux plus jouer avec tes chiens parce que tu n'as plus l'énergie du tout. » Que tu n'as plus d'énergie de coller ta blonde parce que tu es brûlé de tout.
Mais tu peux pas avec tes trois drains de toute façon. Tu peux pas te tourner.
En plus, je suis troué de partout. J'ai trois drains thoraciques. Là, on m'a installé un autre ici.
Un port à quatre. Un
port à quatre, tu sais, pour faire des perfusions plus rapidement. Ça, c'est une autre chose. Fait que, tu sais, je suis beaucoup... en fait, c'est ça, c'est plus moi qui décide.
As-tu pensé reprendre le contrôle de ça? Puis je m'explique, c'est un peu personnel, mais moi, j'ai un proche à qui c'est arrivé une situation un peu semblable. Puis je me souviens d'un moment où il a voulu arrêter les traitements, les hôpitaux. C'était comme, hey, si pour vrai, il me reste peu de temps à vivre, je peux-tu juste aller chez nous?
Trouve-moi un arbre à quelque part, de l'air frais.
Je peux-tu juste aller respirer, faire ce que j'aime? Là? Puis, est-ce que c'est quelque chose qui traverse l'esprit, si c'est pas indiscret?
C'est que... Présentement, depuis un certain temps, j'ai été très chanceux. C'est en fait, j'ai rencontré un groupe de soutien pour le cancer qui est à Limoilou. Mmh. Puis
l'OQPAC.
Puis eux autres sont là pour t'aider genre dans n'importe quoi de tes moments de ta journée puis tout ça. Puis on fait un gros travail parce que moi je crois bien fermement que le cancer, il est là, tu sais, il prend de la place, tu sais, dans mon corps. C'est là, c'est mécanique, c'est physique. Mais il prend aussi, malheureusement, de la place, tu sais, dans ma tête.
Dans tes deux oreilles, ben oui.
Puis ça, c'est mortel. C'est ce qui est le plus dangereux, selon moi. C'est pour ça que je disais tantôt, tu sais, quand le médecin dit, écoute, il va te rester X semaines, ben moi, je veux pas les entendre ces semaines-là. Je vais m'y faire, puis j'arriverai à ce moment-là, tu sais, quand je déciderai, tu sais, que ça sera terminé, tu sais. Fait que c'est ça. J'ai peur que si le moral descend d'un coup, que là, je perde tout ce qui est vraiment physique, que je décide d'arrêter d'avoir du plaisir. Ben même, je parlais l'autre fois, depuis que j'ai le cancer, je ne ris plus. J'ai... OK, ça va arriver un peu, tu sais, comme ça, mais j'étais une personne qui faisait des blagues. J'aimais tellement rire, mais je ne ris plus. Puis j'ai parlé avec d'autres intervenants, puis il y en a d'autres que c'est le chant. Il y en a qui chantent plus. Tu sais, il y a diverses choses comme ça, mais...
C'est un l'amour,
hein? C'est effectivement, puis oui, c'est vrai, ça. Puis doublement, tu sais, quand que je vois ma blonde, ben tu sais, je l'adore, tu sais, puis il y a eu aussi quelque chose qui s'est passé, là. Tu sais, bien entendu, là, on a évolué, on s'est renforcé, moi puis elle. Mais ça reste que, tu sais, des fois, le cancer est là, m'a donné une dure journée. J'ai pas le goût, tu sais, de petites affaires de niaisage, puis que, tu sais, je peux pogner les nerfs plus facilement. Mmh. Fait que c'est pas dur pour elle aussi. C'est pas, c'est pas facile pour elle. C'est pas facile pour ma famille. C'est parce que, tu sais, le cancer, pour moi, là, je l'ai donné à ben du monde.
C'est un gros nuage noir, là.
Ouais.
Êtes-vous bien entouré?
Oui.
Très bien entouré.
Oui.
Les familles sont là.
Oui.
Ça me fend le cœur de vous écouter. Vous êtes du bon monde, ça paraît.
Ça se sent.
Même si tu ris pas, t'as une face de rieur.
C'est vrai.
Je te dis, oui, elle est pas
loin.
J'ai
failli te proposer de te conter une joke, je me suis dit,
voilà.
prochaine fois.
Elle poche de toute manière.
Vous avez un GoFundMe. Oui. Je pense que vous êtes des gens qui méritaient plus que de l'aide. Je pense que tout le monde s'identifie un peu à une histoire comme celle-là aussi. Tu sais, le début de la quarantaine, je pense qu'il y a bien du monde qui commence à avoir peur de la mort dans ces années-là. Puis, tu sais, cette impression-là, c'est tellement enrageant. Puis, on a reçu plein de commentaires de gens qui racontent des histoires similaires. En passant, Sébastien te salue. Quand il nous en a parlé, je sais pas Sébastien qui, il dit Nick, c'est mon meilleur chum. Il dit ouais, il a écouté la semaine passée, puis il écoute encore aujourd'hui. Il y a trop d'histoires comme ça pour que ça reste là. Puis moi, je veux que ce témoignage-là soit transféré au ministère de la Santé.
Absolument.
Faut que ces gens-là écoutent les histoires humaines parce que la santé, c'est pas juste des chiffres, puis c'est pas juste des statistiques. Puis voyez-vous, là, sur le taux, aux urgences, on performe mieux que l'Ontario. Ça veut rien dire. Ça veut dire fuck all. C'est des histoires comme ça qu'il ne faut pas qu'ils arrivent. Puis il faut que l'histoire qui vous arrive serve à quelque chose en bout de ligne, puis que ça fasse prendre conscience à des gens qui... C'est peut-être injuste, puis c'est peut-être pesant à porter, mais il y a des gens qui n'ont pas le droit de se tromper dans la vie. Moi, je vais faire une nouvelle, je vais faire une erreur, je vais gaffer, je vais m'excuser le lendemain du mieux que je peux. C'est des erreurs qu'on peut réparer plus souvent qu'autrement. Un médecin peut pas te traiter comme tu as été traité deux, trois fois avant qu'on trouve ton cancer. Puis c'est des familles, puis c'est des couples, puis c'est des gens qui... t'as dit quelque chose, moi, tantôt, qui m'a fendu en deux. Tu sais, le cancer, tu l'as donné à plein de monde. Puis c'est pas de ta faute à toi, tu sais. C'est juste que tu vis ça en famille, puis tu vis ça... Je vous souhaite des beaux moments
Merci.
Dans tout ça.
Merci.
Qu'on parle de semaines, qu'on parle de mois, qu'on parle d'années. Puis si jamais vous avez besoin de quelque chose, vous nous avez trouvé une fois, vous allez nous retrouver. OK? Gênez-vous surtout pas. Que ce soit pour le GoFundMe, que ce soit pour autre chose, faites juste faire signe. Puis on vous souhaite plein d'amour.
Merci.
Plein de compassion, plein d'énergie. Ouais. Puis encore des rires.
Oui.
Faut qu'il en reste encore.
Ça va être à travailler prochainement.
Mais merci de nous avoir donné une voix aujourd'hui. Puis comme tu l'as dit, c'est que derrière ça, en fait, nous, ce qui nous anime, c'est que c'est des êtres humains, tu sais, puis c'est des vies. Donc, il faut que ce soit entendu.
Ouais. Merci d'avoir fait le détour. Je sais que ça a pris pas mal d'énergie d'une journée déjà pas mal remplie au niveau...
On va aller se coucher, je pense.
Ouais.
C'est mérite.
Hey, oui, absolument. Noémie, Nicolas, merci beaucoup.
Merci. Merci.
Il est 17h28 à Boulevard 102.1. C'est Gravel dans le retour. Gravel dans le retour.